T'es folle.
Tu sais que j'ai essayé de chanter genre dans le et micro avec la musique dans mon casque
et alors
et de chanter. J'ai chanté Rien à prouver de Ize. Et après, je me suis réécoutée.
Et alors?
C'était horrible.
Ouais, c'est dur de chanter. Hein. Comme quoi, c'est un vrai talent. Hein.
On préfère la lecture, nous.
Ouais, on préfère la lecture.
Bienvenue. Vous entrez dans ta zone de confort, à ta zone de génie.
Quoi, tu laisses place à ta créativité, il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis.
Une porte ouverte
sur un monde enchanté.
Tu lis quoi, toi?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout.
Des petits tas dans ma chambre, des petits tas dans
ma bibliothèque,
c'est...
Lire,
c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi?
Je contemple, j'écris, je lis. Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club de la Zone, le Book Club pour les créatifs qui aiment lire et raconter des histoires. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année 2023, je suis accompagnée de ma sista.
Salut.
Ma sœur Eva. Alors, pour ce premier épisode de l'année dans le Book Club, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu différent. On a mis des petites questions par rapport à nos lectures, aux meilleurs livres qu'on a lus, aux pires livres qu'on a lus, etc., etc. Et qu'on allait y répondre chacune notre tour et échanger en fait sur les livres qu'on allait citer, les ressentis qu'on en a eus et bien sûr vous donner comme ça des recommandations. Alors, avant ça, Eva, est-ce que tu pourrais te présenter en présentant peut-être un petit peu ton rapport à la lecture, pourquoi est-ce que tu aimes lire, ce genre de choses.
Alors, comme vous le savez déjà, je m'appelle Eva, je suis une thésarde en droit. Et comment j'ai commencé à lire, ma mère m'a emmenée au salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Elle est passionnée par les livres et elle m'a transmis cette passion. Elle m'a fait dédicacer un livre sur un ours polaire, enfin bref.
Ah oui!
Ouais! Ouais, ouais! L'enfant et l'ours.
Oh oui, je me souviens trop de ce livre en plus!
Ouais, j'ai adoré.
Et Désolé, je t'ai coupé.
Il a été animé d'ailleurs, enfin bref.
Oui, c'est vrai!
Ouais, ouais, j'ai adoré.
Oh, ok, c'est ça qui t'a fait aimer les livres.
Ouais, et on me l'a dédicacé, quoi.
Oh!
Ouais,
le
c'était
souvenir.
Incroyable.
J'en ai des frissons.
Ouais, et à partir de là, j'ai commencé à lire. J'étais un peu happée par le flot de la lecture,
ouais,
flot de la littérature.
Qu'est-ce que tu vois quand tu lis, toi?
Je vois des images. C'est comme un film.
Ouais.
Ça se déroule. Ça se déroule dans ma tête.
Et les scènes, il y a différents personnages qui parlent. Est-ce qu'ils ont des voix différentes, toi, dans ta tête?
Alors, je réfléchis à la question des voix différentes. Je pense que je dois me concentrer davantage pour qu'ils aient des voix différentes.
Okay.
Parce que sinon, je suis un narrateur plat, un peu, où j'ai tout le temps la même voix.
Mais moi aussi, j'avoue que dans ma tête, ça fait un peu comme une pièce de théâtre.
Ouais.
Et je pensais que ça faisait ça pour tout le monde. Mais il y a des gens qui voient rien quand ils lisent. Et je me dis, mais c'est trop triste.
Ouais, mais ils le savent pas parce qu'ils savent pas que des gens voient des choses.
Ouais, peut-être. En tout cas, pour nous, la lecture, c'est un peu comme le cinéma, mais en mieux, parce que ben, c'est nous qui inventons les images qu'on voit dans nos têtes. Et je pense qu'on va commencer par piocher une petite question.
Alors, piochons.
Je te
honneur
laisse.
Honneur à moi.
Oui, honneur à toi, Eva.
Honneur à la plus jeune.
Exactement.
Alors, le livre que tu ne t'attendais pas à aimer.
Très bonne question. Tu veux répondre d'abord?
Vas-y, réponds. Non, toi, réponds.
Alors, le livre que je ne m'attendais pas à aimer, j'hésite entre deux, mais je pense que je vais répondre Americana.
Ah ouais?
Ouais, de Chimamanda Ngozi Adichie.
Moi, ça me surprend comme réponse.
Ah ouais?
Ouais.
Mais en fait, je ne m'attendais pas à l'aimer parce que je me souviens que je crois que c'est Cerise sur YouTube qui en avait parlé. Elle faisait un peu une revue des quelques livres qu'elle avait lus et elle avait parlé de Americana. Et je me souviens qu'elle avait parlé de d'autres livres aussi et j'ai acheté trois, je pense, de ses recommandations.
Okay.
Et de ces trois-là, c'est celui qui m'attirait le moins. Alors, Americana, si vous connaissez pas, bon, c'est donc un roman d'une autrice nigériane, Chimamanda, qui est devenue un vrai phénomène, en fait, parce qu'Americana a été un best-seller et un succès phénoménal dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est donc l'histoire d'Ife Melu, une Nigériane de la classe quand même assez aisée, plus, quoi, et éduquée. Ses deux parents sont professeurs, ce genre de choses. Et donc, elle va aux États-Unis pour faire ses études, etc. Et c'est là qu'elle découvre, en fait, qu'elle est noire.
Ok.
Et en fait, on suit sa vie et on va aussi suivre en parallèle la vie de son... Bah, en fait, de l'amour de sa vie, quoi, parce qu'ils s'aimaient déjà au lycée, à l'université, mais leurs chemins se sont toujours... ils n'ont jamais vraiment pu vivre leur amour. Et donc, ce gars-là, il s'appelle Obinze, je crois, ou Obinze. Désolée pour la prononciation. S'il y a des Nigérianes qui nous écoutent, vous me corrigerez pour la prononciation. Et en gros, lui, il va avoir une expérience de l'Occident vraiment différente. Lui, il va aller à Londres et il va galérer de ouf. Il va limite être un sans-papier. Il va devoir faire des petits jobs au noir alors qu'Ife Melu, elle est à l'université. Bref, hein, voilà quoi. Genre, elle vit une vie d'universitaire assez privilégiée. Mais en même temps, en fait, elle a des problèmes de santé mentale, elle connaît aussi la dépression parce qu'elle se découvre noire au milieu de blancs. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'attendais pas à l'aimer? C'est parce que je pensais pas... Enfin, en fait, l'histoire ne m'attirait pas forcément.
Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas lue, d'ailleurs.
Ouais. La quatrième de couverture ne m'attirait pas forcément, mais je me suis dit, bon, ok, une noire en personnage principal, en Occident, tu vois, une noire comme personnage principal en littérature blanche, on voit pas ça souvent, qui est traduit d'ailleurs en français.
Ouais.
Donc, et en fait, ça a été un coup de cœur, quoi. J'ai vraiment adoré ma lecture. Chimamanda, elle a un don pour décrire un peu des scènes du quotidien, mais auxquelles tu vas profondément t'identifier, tu vois. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est trop vrai. Et il y a une scène particulière dans ce livre. C'est au tout début, quand Ife Melu rentre dans un salon de coiffure aux États-Unis. Enfin, je sais plus dans quelle ville elle est. Et les interactions qu'il y a entre celles qui se font coiffer et entre les coiffeuses. Mais moi, en fait, ça m'a rappelé quand on va à Château Rouge, tu sais, quand on va à Sénégal 13, là.
Relatable.
Ouais. Exactement. On peut trop s'identifier. Et bref, ça m'a marqué. J'ai trop aimé. Puis l'histoire d'amour est trop belle aussi. Et voilà, quoi. Donc, merci Manu. Merci d'être venu à mon TED Talk.
Ouais, c'est clair. Tu l'as
kiffé. Trop long. Et toi?
Eh ben, Love in Color de Bolu Babalola, qui est une auteure, pareil, elle est nigériane d'origine, elle vit en Angleterre, et elle a écrit donc ce livre, c'est son premier livre, c'est un recueil de nouvelles d'amour, ça parle que d'histoires d'amour, il y en a 12, et je m'attendais pas à l'aimer parce que les histoires d'amour, bon... J'en lis, mais voilà. C'est pas non plus le sujet principal de la littérature que je lis.
Ok, c'est pas ta tasse de thé, quoi.
Ouais, okay. Juste une histoire d'amour, j'irais pas vers ça.
Ok.
Et en fait, je me suis surpris à aimer, surpris à vouloir d'autres nouvelles. C'était très bien écrit et le thème changeait à chaque fois. L'espace-temps changeait à chaque fois. Parfois, c'était inspiré de mythologie. Parfois, c'était inspiré de contes nigérians. C'était hyper intéressant, finalement.
Bah, franchement, tu m'as grave donné envie de le lire.
Ouais, franchement.
Ah, mais c'est pas moi qui te l'ai offert?
Non.
Ah.
Désolée. C'est bon, tu m'as pas offert toute ma bibliothèque.
La moitié, quand même.
Ouais, attends.
Le nom était catégorique, genre. T'as pas laissé place au doute, quoi.
Non, mais faut pas abuser, quoi.
Ok. À moi de piocher. Un livre qui t'a bouleversé ou fait pleurer.
Ok.
Mais toi, tous les livres te font pleurer.
Alors, moi, je suis très sensible. Donc, on va falloir piocher dans ma bibliothèque de larmes. Le chant d'Achille, évidemment, de Madeleine Miller.
Ah, la fameuse.
Si vous l'avez lu, vous savez pourquoi j'ai pleuré. Si vous l'avez pas lu, j'ai pleuré parce que c'est... Alors, ça va paraître contradictoire, mais c'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est une histoire de guerre. C'est une histoire de lumière autour d'un conflit qui est sanguinaire, qui est destructeur. Et
la guerre de Troie.
Ouais, la guerre de Troie. Mais je voulais pas spoiler, en fait.
Ah, mais il faut quand même dire que ça se passe dans l'Antiquité.
Oui, ça se passe dans la mythologie. C'est connu comme histoire, mais à la fin, on se rend compte qu'on ne connaissait pas vraiment cette histoire. En tout cas, moi, j'avais écrit sur cette histoire quand j'étais en sixième, donc il y a 14 ans. Mmh. Et j'avais écrit la fin de cette histoire. J'avais écrit sur la fin de cette histoire et j'avais complètement oublié. Et donc, quand j'y suis arrivée, j'étais surprise. Je m'attendais pas à ce que ça me choque autant. Et j'ai versé toutes les larmes de mon corps.
Oh.
Ouais. J'étais vraiment... En plus, c'était en pleine nuit, je voulais pas le lâcher.
Oh non, ma petite Eva.
Ah ouais, j'étais au bout de ma vie, quoi.
Mais comment ça, tu t'as écrit là-dessus en sixième? C'était un devoir?
Ouais, c'était un devoir. Ah, ok. C'était une rédaction, ouais.
Ah, ok, d'accord. Où tu devais rédiger la fin.
Et j'ai rédigé pile le moment où j'ai pleuré, quoi.
Ah ouais, ouais, ok.
Et j'avais oublié.
Voilà, réminiscence.
Ouais.
Ça a réveillé des traumas.
Ouais, c'est clair. Mon cerveau avait effacé tellement ça m'avait eu.
Alors moi, le livre qui m'a bouleversée, c'est... En fait, je pleure pas pour les livres.
Ouais, j'avoue, elle a pas de cœur.
J'avoue, je pleure pas souvent pour des lectures. D'ailleurs, très rarement. Mais une qui m'a vraiment marquée, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai quand même lu des trucs un peu plus hardcore, tu vois. C'est « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur »
ouais.
d'Harper Lee. Et donc c'est un classique de la littérature américaine. Je me souviens plus quand est-ce que j'ai acheté ce livre. Et je me suis plongée dedans et j'ai pas pu le poser, quoi. Il est hyper prenant, c'est l'histoire d'une une petite américaine, je pense dans les années 40, 60,
ouais, 50,
quelque chose comme
ouais,
ça.
Quelque chose comme ouais. ça.
Donc aux États-Unis, donc c'est encore on vient de sortir de la période de l'esclavage, mais dans le sud, c'est la ségrégation.
Ouais, la ségrégation, c'est hard.
Raciale, ouais, c'est vraiment dur. Et on voit en fait la vie d'une petite ville dans le sud des États-Unis, dans les yeux d'une petite fille américaine blanche qui est très lucide, qui est très éveillée. Franchement, elle a l'air honnêtement d'être surdouée un petit peu.
Ok.
Et son père, son père lui lit le journal, tu vois, c'est sur ses genoux. Elle a un regard sur le monde qui est très éveillé et très... lucide, quoi. Ouais, c'est ce que... Je vais pas me répéter 40 milliards de fois. Et il faut savoir que son père est avocat.
Ouais.
Et à un moment donné, il va devoir défendre un noir qui est accusé d'avoir, il me semble, agressé une femme blanche. Alors que bien sûr, il ne l'a pas fait. Hein. C'est un autre homme blanc qui l'a agressé. Et donc, en fait, on va voir comment la ville va non seulement, bien sûr, se liguer contre cet homme noir, mais aussi se liguer contre l'avocat qui le défend. Mais vraiment dans les yeux d'une petite fille. Donc en fait, Harper Lee, elle dénonce vraiment l'absurdité du racisme et aussi la stupidité d'une foule.
Mmh, ouais.
Et en fait, elle le dénonce d'autant plus que c'est une personne qui a expérimenté le moins dans le monde, vu qu'elle est plus jeune, c'est une petite fille, qui voit à quel point... C'est absurde, c'est-à-dire qui se montre en fait plus intelligente que des adultes, tu vois.
Oui, parce qu'elle n'a pas été encore...
Corrompue.
Ouais, voilà, exactement.
et en fait, voilà, et je sais pas vraiment pourquoi ce livre, pourquoi à ce moment-là, mais c'est un livre qui m'a vraiment, je sais pas, bouleversée et qui m'a fait pleurer, au même titre que « Des souris et des hommes ».
Ah ouais, non, mais celui-là...
De John Steinbeck.
Je ne peux pas en parler.
Mais celui-là aussi, il est incroyable. Et la scène du palefrenier. Mm. Donc, le palefrenier, c'est celui qui s'occupe des chevaux. Donc, ça se passe aussi à la campagne.
Ouais, ouais, ouais.
Ça se passe aussi dans le sud des États-Unis. C'est aussi... c'est l'histoire de deux saisonniers, en fait. Il y en a un, et puis il y a l'autre... qui, lui, est autiste et peut-être même, à la limite, atteint de trisomie 21. Mmh. Mais on ne le savait pas à l'époque. Et bref, et enfin, cette histoire aussi m'a bouleversée.
Ouais, j'en ai parlé. C'est bouleversant, de... effectivement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh.
Et la scène donc du palefrenier noir celui qui s'occupe des chevaux et qui fait tout un discours justement sur le racisme et la façon dont les Noirs sont traités dans le Sud et et tu sais quand il parle de sa condition mais de manière tellement vraie et de manière aussi tellement poétique. Bref, lisez Des souris et des hommes. Je sais que je l'ai mal vendu un peu, mais autant bouleversé. Il est trop bien. Et enfin, John Steinbeck, c'est aussi un classique de la littérature américaine. Ouais. Incroyable.
Mais j'en ai un autre.
Ah, vas-y. Dis.
J'en ai un autre qui m'a bouleversé. Ça s'appelle Et Nietzsche a pleuré. Donc évidemment, le titre, on sait qu'on va être un peu bouleversé. Et ça parle donc du philosophe Nietzsche qui traverse une crise existentielle et qui va être poussé par une femme à se soigner chez Breuer, qui est un peu le père de la psychanalyse. Et ça nous fait poser des questions, comme pourquoi on est là, à quoi on sert. Voilà, et ça devient existentiel pour nous. En fait, on devient Nietzsche, et à la fin, on est quand même bouleversé, on se pose beaucoup de questions, et on n'y répond pas forcément, et le livre y répond pas pour nous. Et oui, c'est bouleversant. Mmh.
Donc en fait, tu finis le livre et t'as plein de questions.
Ouais.
En mode, t'appelles ta psy direct.
Ouais,
quoi.
Exactement. Et à la base, tu suis l'histoire de Nietzsche. C'est lui qui se pose des questions. Mmh. Mais on devient lui.
Mmh. Prochain petit papier.
Ouais, c'est moi qui pioche.
Vas-y, pioche.
J'espère qu'on va piocher un truc un peu plus joyeux parce que...
Ouais, c'est clair, depuis tout à l'heure, on vous donne pas trop envie de lire là.
Un livre qui t'a appris sur toi et ou sur le monde.
Ah,
ça c'est bien.
Intéressant.
Je dirais Le silence des étoiles de Sanaka.
Ah oui, la BD.
Ouais, la BD. Pourquoi ça m'a appris sur moi? Ça m'a appris, en fait, plutôt des choses sur le monde, sur les relations amoureuses que j'idéalisais beaucoup avant de lire ce livre. Je pensais que tout était rose quand on était en couple, qu'on pouvait pas souffrir. Et l'héroïne souffre beaucoup, en réalité, malgré son bonheur, elle est ambivalente et ça m'a appris qu'on avait le droit d'être ambivalent, qu'on avait le droit de ressentir plusieurs choses par rapport aux relations. Mmh. Et c'était très éclairant, en fait.
Mmh, parce que donc l'histoire, en fait, c'est vraiment l'histoire de l'autrice de la BD qui vivait donc une histoire d'amour et du jour au lendemain, elle se fait ghoster par le gars.
Et c'est contemporain.
Ouais, et c'est contemporain, oui. Et ouais, moi aussi, ça m'avait trop touchée. En plus, on voit pas son petit cœur. Elle le dessine,
ouais,
son petit cœur.
Ouais, ouais, le dessine. Ah, c'est... Voilà, maintenant, je suis triste. C'est reparti.
Non. Pourtant, c'était une bonne question. Vas-y, on passe à autre chose. Donc, moi, un livre qui m'a appris sur moi-même et ou sur le monde... Bon, il y en a un, j'en parle tout le temps, c'est Comme par magie, d'Elisabeth Gilbert.
Ok, ouais, on s'y attendait.
Qui permet de libérer sa créativité. Il faut savoir que je suis une personne assez perfectionniste. J'ai ce truc un peu d'être très scolaire, de suivre vraiment les règles, de faire tout comme on me dit. Et alors que, justement, pour libérer sa créativité, ben, il faut d'abord s'écouter soi et ne pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs, de faire des ratures, de dépasser... de ne pas être dans la norme. Et Elisabeth Gilbert nous dit tout ça et par dans plusieurs paragraphes, en fait, parce que c'est organisé par petits bouts de texte. Elle nous explique comment, à travers elle, son processus créatif, parce qu'elle voulait être écrivaine, elle a réussi à trouver cette libération-là. Et à juste s'exercer dans son art et être en paix, en fait, avec ça.
Ouais, elle part de son expérience pour t'inspirer un peu.
Exactement. Okay. Elle part de son expérience pour m'inspirer. Merci.
De rien.
Parce que j'étais en train de patauger, là. Et le deuxième, celui qui m'a appris, c'est écrit par une psychologue, je ne me rappelle plus son nom, mais le titre, c'est « Comment apprivoiser son crocodile ».
Ah ouais.
En fait, le crocodile, c'est le cerveau reptilien.
Okay.
C'est celui, donc c'est la partie de notre cerveau qui capte nos émotions, nos instincts, nos désirs, etc. Et pour ceux qui connaissent Freud, c'est le ça, tu vois.
Ouais.
Voilà. Et en fait, donc le cerveau reptilien représente notre ego. Et notre ego, il n'est pas toujours mauvais. Il est là aussi pour nous protéger. C'est lui qui nous dit quand on doit avoir peur, quand on doit être en colère ou quand on doit être en repli sur soi. Mais souvent, on fait appel à notre ego dans des situations où il ne devrait pas ouvrir la gueule comme un crocodile.
Ok.
Et donc, ça permet d'avoir un peu une introduction à la façon d'appréhender nos émotions. Donc, pas de les supprimer ou de les gérer. Je déteste cette expression, ouais. Genre gérer ses émotions, tu vois.
Parce que ça renferme un peu.
Ouais, c'est ça. On gère pas nos émotions. Elles passent à travers nous et puis c'est tout.
On n'est pas censé les gérer, les contrôler.
Exact. Et du coup, ben voilà, ça m'a appris pas mal sur ma colère ou ma tristesse ou mes émotions qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est assez éclairant et donc ça m'a appris sur moi-même.
Ok, ça donne envie de le lire. Bien joué.
Merci.
C'est à toi.
Ah, c'est à moi de piocher.
Je sais plus en fait. Oui.
Ok. Le dernier livre que l'on t'a offert ou que tu as acheté.
Alors, c'est compliqué. Ça a l'air c'est plus compliqué que ce qu'on croit.
Mais Eva, c'est le dernier livre qu'on t'a acheté ou qu'on t'a offert quand même.
Est-ce que le dernier livre que t'as fini... Enfin, bref, ok.
Non, le dernier livre qu'on t'a offert ou que t'as acheté. C'est quoi le dernier?
C'est Spare, du Prince Harry. Et c'est une énorme déception.
Oh
ouais.
Alors, il faut savoir que Eva est fan de la famille royale, la série The Crown.
Ah,
c'est sa série genre bonbon.
Je l'ai regardée un nombre incalculable de fois. Ça, et Glee.
Tu es obsédée par Lady Diana.
Ah ouais.
Et donc, tu n'as pas aimé l'autobiographie du prince Harry. Là.
Enfin, je n'aime pas parce que je ne l'ai pas fini.
Ok.
Et ouais, je l'ai acheté en étant très excitée. Déjà, j'étais très excitée par l'annonce. Et je l'ai ouvert en étant très excitée. Et j'en suis à la page 85 sur 600 et quelques. Et j'ai plus envie de l'ouvrir.
Franchement, j'ai une amie qui m'a dit que sa grand-mère lui a dit...
Ok, viens-en au fait.
Genre, la vie est trop courte pour s'obliger à finir un livre qu'on n'aime pas.
Je suis grave d'accord.
Voilà.
Lire ne rime pas avec souffrir.
Exact. Donc, tu mettras ce livre-là sur Vinted.
Ouais.
Merci, au revoir. On passe à autre chose.
Ouais. Je vous ai pas du tout donné envie de le lire.
Alors, le dernier livre que on m'a offert ou que j'ai acheté, je vais faire le dernier livre que j'ai acheté, c'est 47 cordes.
Ah!
De Timothée Le Boucher. Alors ici, chez les Moussas, on est fan de Timothée Le Boucher. On a lu toutes ses BD, sauf la toute première qui malheureusement n'est plus dispo.
Ah bon?
Ouais, malheureusement, j'ai cherché partout et pour le moment, je ne la trouve pas.
Ah oh non.
Mais bon, elle a l'air un peu... Timothée Le Boucher a un univers assez glauque, hein, assez dark, qui s'intéresse beaucoup au corps et à l'identité. Et à la perte d'identité. Puis là, je pense que dans sa tête, il a pas mal de questions existentielles aussi qu'il essaie de régler à travers ses BD.
Ce qui rend les BD terrifiantes.
Exactement. Je vous en avais déjà parlé avec Ces jours qui disparaissent, dans le book club numéro 2, je pense. Et donc Timothée Le Boucher revient là récemment avec 47 cordes. Et c'est l'histoire d'Ambroise, qui est un musicien, un harpiste.
Ouais.
On dit harpiste ?
Ouais, on dit harpiste.
Ok. Donc, il joue de la harpe et il est assez introverti, assez réservé, limite un peu socially awkward. Et un jour, sur une plage, il rencontre une femme qui la met au défi de... en fait, qui lui donne 47 défis pour remporter 47 cordes qui sont les cordes
de la harpe.
D'une harpe. Et en fait, Ambroise a besoin d'une nouvelle harpe pour s'exercer, etc., parce qu'il vient d'entrer dans un orchestre.
Ouais. Voilà.
Donc, Ambroise accepte
le
challenge, pour gagner les 47 cordes. Et les défis sont de plus en plus bizarres et glauques. Et il faut savoir que cette femme-là, qui lui... offre de faire ce challenge-là, est une métamorphe. Elle n'est pas humaine.
Mais qu'est-ce qu'une métamorphe, Emmanuel?
Qu'est-ce qu'une métamorphe, Eva? Mais tu vas nous le dire.
Une métamorphe, c'est une espèce d'être qui peut changer de corps. et qui change de personnalité,
c'est
en réalité.
Ça. En fait, elle prend la forme qu'elle veut. Donc, en fait, elle va prendre la forme de différents humains. Mmh. Tant qu'elle les a vus un jour, elle peut prendre leur forme et devenir eux, entre guillemets, les
incarner. Ça peut être quelqu'un qu'elle a vu sur une photo, sur un magazine, une pub, quelqu'un qu'elle a vu en vrai.
Exactement. Et donc, cette métamorphe, on ne sait pas vraiment pourquoi elle a posé ses yeux sur Ambroise et pourquoi elle est autant obsédée par Ambroise. On ne sait pas pourquoi elle va absolument lui offrir une harpe et tout, mais il développe une sorte de relation ultra bizarre. L'univers de la métamorphe est aussi très angoissant et franchement glauque. Honnêtement, parfois, il y a un peu des vibes ultra dark. Hein, franchement... Ouais.
À ne pas lire la nuit.
À ne pas lire la nuit, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a deux métamorphes qui fêtent leur anniversaire. Vous voulez pas être à cette soirée. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ce passage m'a eu, et pourtant j'ai lu en plein après-midi.
Ben moi, en fait, j'ai dû m'arrêter là parce qu'après je devais dormir.
Ouais.
Ça a été difficile.
Voilà, il fallait le lire en journée.
Ah ben nous, on est des petites flippettes, hein.
C'est clair, des grosses flippettes.
Et bref, en fait... ça finit, le tome 1 finit sur un grand suspense.
Ouais.
On a absolument envie de savoir la suite et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie de voir comment l'histoire se termine.
On a besoin de
savoir comment l'histoire se termine, quelles sont les motivations de cette métamorphe. Est-ce que Ambroise va enfin connaître la vérité? Parce que Ambroise ne sait pas qu'elle est métamorphe.
Évidemment.
Et donc elle se métamorphose en... plein de personnages de l'entourage d'Ambroise qui croient parler à des personnes différentes alors qu'en fait ils parlent qu'avec la métamorphe.
C'est horrible.
Donc voilà, et j'ai très hâte de lire le tome 2 et peut-être que je vous en parlerai dans un prochain book club.
Et on pioche le livre que tu n'as pas pu finir. Il y en a tellement.
Ah, c'est clair.
Il y en a tellement. Déjà des classiques, La Saumoire. Daniel Zola.
Mais ça, c'est un classique de livre qu'on peut pas finir, tu vois. Ouais. Dans la catégorie qu'on peut pas finir, il est dans le top 3, enfin.
Ouais, clairement. Zola, je suis navrée, Au bonheur des dames, La Saumoire, enfin, bref. Zola, je pense qu'il est infinissable.
Mais il y en a qui aiment bien les Rougon Macquart. Hein.
Et il y a un livre, Le mec de la tombe d'à côté.
Mmh.
Tu connais?
Ben, j'ai entendu le titre.
Ah ouais?
Ouais, j'ai entendu parler du titre,
ouais. Ok. Non, mais je m'y attendais pas.
Ah ouais?
Non.
Mais je crois un jour je l'ai vu dans ta bibliothèque.
Ouais, ça doit être ça.
Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire?
Le mec de la tombe d'à côté, c'est l'histoire d'une femme qui perd brutalement son mari. Et donc, il se rend à sa tombe et elle tombe sur un mec. Elle tombe sur un mec qui est également au cimetière, à côté. Et il développe une sorte de relation à la fois passionnelle, à la fois toxique. Ils sont obsédés l'un par l'autre, mais ça peut pas être sain parce qu'ils sont tous les deux en deuil. Enfin bref.
Ah, on dirait un mauvais Guillaume Musso.
Ouais, exactement. Et j'ai pas pu le finir. Ça a fini par m'ennuyer. C'était trop.
Bon à part si vous aimez les histoires d'amour bizarre et toxique. On ne vous le recommande pas. Lisez plutôt...
Émile Zola.
Non, j'allais dire la BD là, de Sanaka de tout à l'heure.
Ah, Le silence des étoiles.
Voilà, lisez plutôt Le silence des étoiles. C'est une petite histoire bonbon qui nous a réchauffé le cœur.
Ouais.
Alors moi, un livre que je n'ai pas pu finir, mais que je vais quand même essayer de vous vendre, c'est Open Water. C'est de Caleb Azuma Nelson. C'est donc un Britannique noir, afro-descendant, qui a publié là récemment son premier roman et on a parlé partout. Enfin, il était vraiment partout sur Bookstagram, sur Booktube. J'imagine sur BookTok, mais j'ai pas TikTok, donc je peux pas savoir.
Moi non plus.
Et il a été traduit dans 14 langues. Le New York Times a même dit que c'était un premier roman inoubliable, etc.
Oh
bref, j'étais trop hypée.
Oh non.
J'avais trop envie de le lire. En plus, il fait 200 pages. Voilà, c'était parfait, tu vois. Une petite après-midi, bim, rentrée dans l'univers de Caleb. J'allais être trop saucée. En plus, ça parlait un peu d'une histoire d'amour entre deux Londoniens afro-descendants,
ouais,
mais dans les yeux d'un homme noir. Et là, je me suis dit, waouh, un pull noir qui parle de ses sentiments
et tout.
Ouais, c'est clair, on va rentrer enfin dans sa vulnérabilité.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, rien.
Oh non.
C'est ça le problème. Il ne s'est rien passé. Alors, le livre fait 200 pages. J'ai lu 100 pages. Et j'ai suivi les conseils de la grand-mère de ma pote, quoi.
Ouais.
La vie est trop courte.
La vie est trop courte.
La vie est trop courte. Et en fait, c'est exactement le livre que tu décris, Eva, comme étant un Just Vibes.
Ah ouais, les Just Vibes Books.
Vas-y, explique, c'est quoi les Just Vibes Books?
C'est les livres où il ne se passe rien à part des vibrations, c'est-à-dire qu'on ne ressent rien, juste on est là pour vibe.
On est là pour vibrer, quoi.
On regarde le livre et le livre nous regarde et il se passe rien.
Mais si, des vibes.
Ouais, voilà.
Il se passe des vibes. En gros, c'est un peu comme quand on contemple un tableau.
Ouais, exactement.
Voilà, c'est vous savez, il y a des films comme ça aussi.
Ouais.
Où il se passe un peu rien, mais on aime bien quand même. Donc si vous aimez les œuvres contemplatives, que ce soit des films ou des livres, et aussi que vous aimez beaucoup le verbe, c'est-à-dire que voilà, vous aimez les belles phrases, que vous aimez la prose poétique en roman, ben je pense que vous allez vraiment beaucoup apprécier ce livre. Parce que bah, Open Water, c'est quand même un homme noir qui vraiment se livre sur ses sentiments. Il tombe amoureux de la copine de son meilleur ami. Au final, la copine finit par quitter le gars.
Ouais.
Et ils se mettent ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est des Just Vibes agrémentés de petites ponctuations de violence et brutalité policière.
Oh.
Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fil, qu'il se passe un peu rien, enfin juste le gars vit sa vie et puis on le voit suivre sa vie, puis et voilà quoi, enfin, il n'y a pas tant d'enjeux, de péripéties, c'est just vibes, voilà.
C'est, ouais.
Donc je pense que voilà, si vous aimez quand même contempler, que vous avez envie de plonger dans les traumas et dans l'esprit d'un jeune homme noir afro-descendant londonien qui est un artiste aussi parce qu'il est photographe.
Ouais, ok, d'où les vibes.
Ouais.
Non, mais ça explique beaucoup de choses.
C'est un peu cliché, ça. Eh ben, vous allez quand même apprécier, mais moi, personnellement, ça l'a pas fait pour moi et j'ai pas pu finir.
Ok, ça pioche. Un livre qui t'a glacé le sang.
Ouh. Je suis sûre que je te l'ai offert.
Je l'ai volé, celui-là, dans ta bibliothèque.
C'est pas moi qui t'ai dit, non, mais vas-y, lis-le, tiens, il faut que tu lises ça.
Le mauvais conseil, le conseil empoisonné.
Mais déjà, c'est quoi le livre?
Parce que livre, je sais même pas. C'est Il n'en resta plus qu'un.
Oh.
Évidemment, de Agatha Christie.
Oui. Avant, appelé Dix petits N, avec le mot en N. Mais voilà, dans la zone, on ne dit pas le mot en haine, on se respecte.
Et donc, il n'en resta plus qu'un, ça raconte l'histoire de 10 personnes qui sont invitées sur une île où il y a un rocher, il y a un manoir. Et le premier soir, un magnétophone les accuse de crime. Chacun d'entre eux est accusé d'un crime et chacun d'entre eux va devoir payer. Or, il y a une comptine qui raconte l'histoire de 10 personnes. Une petite personne faisait ça et elle est morte comme ça, etc. Et ça suit à chaque fois les morts qui se passent comme ça.
En fait, les meurtres suivent la comptine, quoi.
Mais qui tue? Qui est l'assassin? Parce que si ils sont 10 et que 10 meurent,
en fait, dans la comptine, il y a 10 personnages qui meurent et ils sont 10 dans le manoir.
Voilà.
Donc, qui est-ce qui tue, en fait? C'est ça.
Exactement.
Ok.
Et c'est glaçant parce que la fin est terrifiante. Vraiment, je vais pas vous spoiler, mais la fin est terrifiante. Et moi, je l'ai lu en pleine nuit. J'ai pas pu m'arrêter alors que c'était la veille d'un examen et que j'étais en seconde. Et j'ai plus jamais été la même. Non, mais vraiment.
Elle m'en parle encore. Ça fait des années.
Et en plus, pour me terrifier encore plus, j'ai regardé le film. Alors, vraiment...
T'as regardé
ouais, j'ai regardé le film, je me suis dit, j'ai pas eu assez peur, let's go.
Je savais même pas qu'il y avait un film.
Si, il y a un film...
Mais genre, c'est les adaptations de France 2, là, qui passent
non,
après-midi.
Non, c'est une vraie adaptation...
cinématographique.
Non, mais c'est une adaptation genre télévisée, mais c'est okay. Une série en deux parties. Et qui est récente, et c'est vraiment bien joué, bien mise en scène, bref, terrifiante, quoi.
Ah, vas-y, j'ai trop envie de regarder.
Ouais, je te conseille pas trop. À ta place, je ferais pas ça, mais...
Mais c'est vrai que Agatha Christie, c'est vraiment, pour le coup, la reine du crime. Et elle a même mis en scène sa propre disparition ouais. À un moment donné, parce qu'elle s'ennuyait. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment... Elle a vraiment un génie... Pour les enquêtes.
Pour les mystères.
Pour les mystères, etc. Enfin, Agatha Christie, elle est vraiment incroyable. Et je pense que tous les livres que j'ai lus d'elle, ils m'ont... Waouh, j'étais genre waouh ouais. Wow.
Allez regarder le secret d'histoire sur Agatha Christie.
Ah oui, un épisode de secret d'histoire sur Agatha Christie, franchement, il est top. Nous, on aime bien.
Nous, on aime bien.
On aime bien secret d'histoire. Mais ouais, il n'en reste plus qu'un... Vraiment pas mal. Mais il me semble que c'est moi qui t'ai dit, Eva, il faut absolument que tu lis ce livre.
Voilà ce qu'elle fait.
Voilà comment je développe les traumas de ma sœur.
Exactement. Et elle est contente. Hein. Ça l'a fait rire.
Alors moi, un livre qui m'a glacé le sang, c'est Chansons douces de Leïla Slimani.
Ah ouais, ok. Ouais, j'ai entendu parler de ce livre.
Ah, je t'ai pas dit de le lire.
Non, c'est bon. Tes faux conseils, là.
Tu m'as plus jamais.
Bon. Mais en plus, ça a été un film aussi.
Oui, oui, je sais. J'avais pas envie de regarder le film. Mais le livre, franchement, il est trop bien.
Ok.
Donc, en fait, c'est l'histoire d'une nourrice qui garde des enfants d'une famille. Donc, il y a deux enfants en bas âge. Et voilà, le père et la mère, c'est une famille de quatre. Des quartiers assez bobos à Paris. C'est vraiment une famille de la classe moyenne, mais enfin de la classe quand même aisée plus.
Mmh, ouais.
Cadre sup.
Un peu bobo.
Quoi. Ah ouais, vraiment bobo. Enfin, le gros cliché bobo. Ouais, vous voyez ce qu'on veut dire, quoi.
Vous avez compris.
Et bref, et donc en fait, ils engagent une nourrice qui, elle, pour le coup, est dans la classe populaire. Mais vraiment, elle est pauvre. Et surtout, ce qui est très flagrant dans le roman et qui est vraiment exploré de façon, franchement, subtile, quoi. Sans jamais vraiment le dire, mais avec des scènes du quotidien, on voit vraiment un rapport de force et une opposition radicale entre cette famille... Et la nourrice qui a du mal à lire, tu vois, qui n'est pas éduquée, qui n'a pas de culture, quoi.
Ouais, de culture légitime.
Oui, de culture légitime d'ailleurs, ouais. Et ouais, parce qu'en vrai, enfin, avoir de la culture, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, quelqu'un qui sait manier la terre, il a autant de culture qu'une personne qui connaît Shakespeare. Mais la culture qu'on va le plus valoriser, ben, c'est le gars qui connaît Shakespeare. Alors qu'en vrai, je veux dire, à la fin du monde, ça sert à rien.
Et voilà, dédicace à Bourdieu.
Voilà, merci Bourdieu. Bon, bref, maintenant qu'on a remis notre existence en question, à savoir, est-ce que les métiers qu'on fait sont vraiment utiles en cas de fin du monde ?
Aïe.
Revenons à nos moutons. Donc, Chanson douce, en fait, c'est donc l'histoire de cette nourrice et de cette opposition entre deux classes sociales et la fracture et la douleur qu'il y a et qui vient de cette fracture. Et en fait, cette douleur-là va être menée à son paroxysme parce que le livre s'ouvre sur un drame et c'est le meurtre des deux enfants du couple par la nourrice. Oh. Alors, je vous spoil pas, hein, c'est vraiment, vous lisez trois phrases et c'est ça.
Enfin,
vous le savez, quoi. Ouais. Y a un bébé et une petite fille de genre 3 ans et tout. Et en fait, le roman, donc on va remonter le fil du temps pour savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc, quand on voit les interactions entre la nourrice... T'étais choquée, là. Alors, il faut savoir que Eva, on l'a perdue à meurtre. Elle est restée la bouche ouverte, les yeux écarquillés.
Ça va? Ouais, c'est bon, je suis revenue.
Ouais, ça glace le sang. Hein. En fait, ton sang était congelé, là. Il fallait le temps. Tu veux boire de l'eau?
Non, mais ça va.
Ok. Et donc, en fait, bah, on va remonter, Leïla Slimani remonte le temps pour voir un peu, pour essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là et pourquoi la nourrice en vient à une telle violence.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est pas tant une violence contre les enfants, mais plutôt une violence contre la société. Et c'est une violence qu'elle leur redonne, en fait, tu vois. Parce que elle a été violentée toute sa vie.
Ouais.
Toute sa vie, en fait, elle a subi. Et toute sa vie, on lui a dit à quel point elle était une sous-merde, quoi, pardonnez-moi l'expression. Et voilà. Et en fait, il est hyper important pour comprendre la violence qu'on impose aux gens quand on les met dans des classes... Bah, que l'économie capitaliste, clairement, a fait des classes sociales. Et en fait, la violence que c'est d'avoir catégorisé les gens comme ça. Parce qu'en fait, ça conditionne nos rapports sociaux aussi. À part si t'es quelqu'un de déconstruit,
ouais,
bien sûr, et de, voilà, et de conscient, etc., de tes biais.
Mm.
Mais sinon, enfin, par exemple, il y a plein de gens qui ont des femmes de ménage et qui les prennent un peu en pitié. Au lieu de juste respecter
alors,
le
taf,
métier,
ouais,
de cette femme de ménage-là. Enfin, c'est bon, tu lui fais pas la charité, hein. Et tu la payes pour qu'elle vienne faire le ménage chez toi. À ce moment-là, tu dois la respecter et ne pas la prendre en pitié. Et pourtant, il y a un peu ce biais-là. Et ben, c'est exactement ce qui est décrit à plusieurs égards, tu vois, dans le Chanson douce, tu vois.
Ok.
Cette forme de pitié toujours avec laquelle la nourrice est regardée. Et bref, hein, et franchement, ce livre, il m'a glacé le sang. Il est plein de sens. Il est ultra bien écrit. Franchement, la plume de Leïla Slimani, elle est top. Et voilà, si ça vous intéresse, bah, lisez-le.
Ça me rappelle beaucoup le film Parasite. Je sais pas si tu l'as vu.
Ah oui,
mais
ouais. C'est exactement ça, la violence des rapports de classe, ouais, Parasite. Mmh. Ça me rappelle aussi un film français qu'on devait aller voir là au lycée.
Ok.
Parfois, on avait des sorties cinéma, c'était cool quand même. Et on était allé voir ce film, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est ultra connu. Et c'est en fait, il me semble que c'est une femme de ménage,
okay,
justement.
Ça me dit rien.
Qui fait le ménage dans une famille vraiment noble. À un moment donné, enfin les enfants, ils se rendent compte que la femme de ménage ne sait pas lire. Et en fait, elle essaie de lire en cachette, elle bute sur des mots, et ils se rendent compte qu'elle sait pas lire, et ils la prennent en pitié. Encore une fois,
ouais,
cette pitié
cette
supérieure, voilà, cette condescendance un peu. Et à la fin, elle tue tout le monde.
Et
avec
voilà,
un fusil de chasse,
yes,
du père. Parce que bien sûr, il part à la chasse, tu vois.
On adore.
Donc ça m'a rappelé ce film-là. Et j'aimerais bien pouvoir retrouver le nom. Attendez. La cérémonie.
Ah, t'as trouvé direct.
Ouais. Et oui. C'est La cérémonie de Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, voilà.
Okay.
Isabelle Huppert, elle est connue quand même. Et effectivement, c'est un film qui date de 1995. Je sais pas pourquoi je me rappelle
bien
aussi
joué,
bien la date. Et donc voilà, c'est vraiment le même mécanisme, quoi. Je sais plus si c'est à toi ou à moi de piocher.
C'est à toi.
Okay. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez lu ces livres, ou que l'on vous a donné envie de les lire, rejoignez la conversation sur Instagram à la Zone Podcast ou sur le compte Bookstagram d'Eva @EvaAimeLire. Retrouvez la suite du meilleur et du pire de nos bibliothèques la semaine prochaine. En attendant, faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche de nouveaux mondes à découvrir. Prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode.